Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une émission qui, comme vous le savez, célèbre comme il se doit les gourmands et les gourmandes, les gourmettes et les gourmettes. Or, le vrai gourmet est celui qui se délecte d'une tartine de beurre, comme d'un homard grillé, si le beurre est fin et le pain bien pétri. Voilà ce que déclarait Colette, qui était née le 28 janvier 1873. À l'occasion de son 150e anniversaire, Les Bonnes Choses se penchent sur le rapport à la gastronomie de l'autrice des Claudines et du blé en herbe, et également sur la place de la cuisine dans son œuvre.
Une gastronomie campagnarde que je regrette pour vous que vous ne connaissiez pas, comme moi, la tarte aux épinards. Et quant au chocolat grillé devant le feu de bois, c'était pratiqué dans ma famille. Le chocolat grillé, c'est une chose excellente. Je vous conseille beaucoup d'essayer.
Elle aimait ça. Elle aimait que sa nourriture soit très bien faite. Elle la faisait beaucoup elle-même. Moi, elle m'a fait des frottis d'ail, des choses comme ça. Tout ce qui touchait au corps était pour elle sacré.
Je mange à chaque repas 6 gousses d'ail. J'en mange 6 parce qu'on ne m'en donne que 6. Il y a beaucoup de fruits, de la crème, du lait caillé. Et à 4 heures, lait mousseux tout chaud.
L'aliment l'inspire. Et l'une de ses plus belles pages gastronomiques décrit un déjeuner de tagine à Marrakech.
Et le mouton bissé, trissé, le mouton et sa farce au fenouil, le mouton et le cumin et la courgette, le mouton et 20 épices, et un divertissement exquis de galettes feuilletées à la limite du feuilletage mi-cassé qui cachait un noyau douillet de volaille en hachis sucré rehaussé de muscade.
Pauline, mais vous voulez me rendre végétarienne ?
Mais c'est très simple pour madame.
La potée au chou ? Et au cochon est aussi très saine pour madame.
C'est très bon, très bon.
Pas mal du tout.
Pas mal du tout.
Non, la douceur même.
Bonjour, Guy Ducret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi. Vous êtes professeur de littérature comparée à l'Université de Strasbourg, amateur de Colette, auquel vous avez consacré 2 ouvrages. Alors un petit d'abord en 2000, c'était un abécédaire de Colette aux éditions Flammarion. Et un très très gros, peut-être parce que le petit vous aviez pas suffi, un très très gros en 2018 puisque c'est un dictionnaire. Le dictionnaire Colette que vous avez co-dirigé avec Jacques Dupont et une foultitude d'experts puisque vous avez réuni 80 spécialistes de plusieurs nationalités. Ce travail vous ayant pris 10 ans et c'est paru aux éditions Classique Garnier. Quel est votre rapport à Colette, pour le dire très très simplement pour commencer ?
Le bonheur de la lecture, le bonheur des sens éveillés, le bonheur de l'anecdote gourmande qui nous amène ici aujourd'hui, le lendemain de son anniversaire, pour célébrer ce qu'elle a elle-même tant su célébrer, le plaisir des sens, parmi les sens, celui du goût, qui est incroyablement développé dans son œuvre, de temps en temps par petite bribe, et de temps en temps, lorsqu'elle devient journaliste et qu'elle se charge de donner des conseils autour d'elle, par grands morceaux de recettes recommandées, conseils ou pour trouver les endroits où il s'agit de bien manger, mais aussi sur la façon de récupérer des aliments lorsque la pénurie guette, que c'est la guerre. Elle est la passeuse aussi de grands conseils à ses lectrices, puisqu'elle s'adresse très souvent par apostrophe aux chères lectrices, à des lectrices.
Bonjour Pascal Pringarbe.
Bonjour.
Vous êtes le chef du restaurant du Château de la Morinière à Androsé dans le Maine-et-Loire et vous avez écrit avec Muriel Lacroix en 2011 les carnets de cuisine de Colette, 80 recettes d'une gourmande aux éditions du Chêne. Quel est votre rapport à vous, à Colette ?
Alors, ce que je retiens moi chez Colette, c'est surtout son envie de vivre, son envie des bonnes choses. Dans tout son parcours de vie, que ce soit par la littérature, par le théâtre, par les articles qu'elle a pu écrire et surtout cette envie de bons produits dans chaque maison où elle est passée, où elle va découvrir le terroir de chaque région où elle va habiter. C'est une femme multifacette et qui est exceptionnelle dans tous les domaines qu'elle pratique.
Guy Ducret, vous parliez de avec gourmandise d'ailleurs, on l'entend aussi dans la voix de Pascal Pringarbe, mais vous parliez de célébrer. De fait, le thème transversal de l'œuvre Sido au programme du bac cette année, c'est la célébration du monde. Est-ce que vous diriez pour commencer que Colette était une gourmande et une gourmette? Elle écrit, par exemple, en fait de plat préféré, « Je préfère tout ce qui est bon, tout ce qui fait de l'heure du repas une petite fête des papilles et de l'esprit. » Est-ce que ça fait d'elle une gourmande et ou une gourmette?
Sûrement. Elle est, d'ailleurs, elle le reconnaît elle-même, beaucoup plus gourmande et gourmette que cuisinière. Il y a une phrase que j'ai toujours trouvée merveilleuse parce que elle montre sa modestie alors que c'est pas du tout quelqu'un de modeste usuellement, mais elle dit cette chose, j'aime être gourmande, mais c'est embellir la vérité que de me prendre pour un cordon bleu, alors que je suis seulement capable de gouverner l'exécution d'un plat et donner des conseils, tout égayé de gastronomie éclairée. Et je crois qu'il ne faut pas tant l'imaginer derrière les fourneaux, même si un des témoignages qu'on vient d'entendre la montre derrière un fourneau, mais je pense qu'il faut l'imaginer président à Pauline en lui disant « nous aurons à midi ceci » ou « allez acheter cela » plutôt que de faire elle-même la cuisine. À partir de là, ce qui frappe dans les extraits qu'on a entendus et dans ces quelques mots qu'on a dit en introduction, c'est un goût pour des choses très simples. C'est une cuisine sauvage, en quelque sorte, et ça frappe beaucoup dans l'œuvre. C'est une cuisine qui revient ou chérit l'aliment brut. Il y a des conseils qu'on appellerait aujourd'hui de barbecue, mais qu'elle n'appelle pas comme ça. Elle les appelle sous la cendre ou sur la cendre ou sur la flamme, comme on vient de l'entendre, et qui sont au fond des recettes toutes simples. C'est pour ça que quand on lit Colette, on a envie de tout de suite faire la cuisine parce qu'on sent que elle nous en rend capable, en quelque sorte. C'est pas du tout des choses compliquées qu'elle nous fait faire.
On va demander au chef s'il est d'accord avec cette analyse. Pascal Pringarbe, qu'est-ce que vous en pensez? C'est simple, c'est campagnard, c'est familial et rustique, hein, ce qu'elle aime, Colette.
Ah ben tout à fait. Mais je crois qu'il faut revenir aussi un petit peu à l'origine. Tout ça, elle lui a été transmise par sa mère Sido, qui était une mère nourricière, hein, qui cuisinait pour toute sa famille. Et ils allaient chercher dans le jardin derrière la maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, les tomates chaudes du moment, les aubergines, et tout ça était une cuisine, comme disait-il, simple mais savoureuse. Et effectivement, on est sur le produit. Hein, et tout au cours de sa vie, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que je crois que c'est la reine des circuits courts. On parle de circuits courts aujourd'hui, mais c'est la reine des circuits courts. Hein, elle va chercher autour d'elle, de sa maison, dans son jardin, dans son potager, les bons produits.
Oui,
et c'est effectivement une cuisine de produits.
Une cuisine de produits, une cuisine de terroir, et effectivement une cuisine locale. Sachant que le local, avec Colette, a beaucoup bougé. Guy Ducret, comme le disait à l'instant Pascal Pringarbe, c'est aussi, elle a eu aussi une géographie culinaire très mouvante, hein, en fonction des différents endroits où elle a vécu, de la Bourgogne, puisqu'elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisaye, à Saint-Tropez, en passant par Paris, la Bretagne, elle a fait des séjours dans le Lot, en Corrèze, où elle a découvert pâtés et autres cassoulets. Est-ce qu'on peut faire une géographie par les œuvres de la cuisine de Colette?
Je crois, oui, que c'est une formidable géographie de la France gourmette, avec, comme vous le rappeliez, 5 ou 6 points de focalisation. La Bourgogne, bien sûr, qui est le lieu de l'origine auquel elle va ne cesser de revenir. La Provence, qu'elle découvre dans les années 20 avec un éblouissement et aussi pour l'œil et un émerveillement pour le palais, la Bretagne qu'elle avait découverte plus tôt et où alors là naît le goût pour le produit brut, l'observation d'une mare à marée basse qui fait surgir un monstre. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? C'est une crevette. Vite, prenons la crevette et ramenons-la à la maison. Ça, c'est une découverte de la Bretagne et qui est tout à fait extraordinaire. Il faut ajouter à cette première géographie embryonnaire une géographie parisienne, parce que il y a chez Colette une grande préoccupation de la façon dont on peut se nourrir, en particulier en période de guerre, et qui constitue une géographie de ce qu'on peut manger à Paris, par exemple entre 39 et 45. Et puis, il y a, moins connu, mais tout à fait sidérant, l'ouverture sur le Maroc, dont un des textes que vous citiez tout à l'heure était...
Qu'on a entendu lire par la comédienne Lou Lefèvre.
Voilà, qui était est le bon témoignage. C'est-à-dire qu'il y a ce voyage au Maroc, ou ces séjours brefs au Maroc, qui ouvre un exotisme qui, pour nous aujourd'hui, est presque naturel. Mais il faut se placer dans les années 20-30, quand on est à Paris, goûter de la nourriture marocaine, c'est pas si simple, et elle découvre des choses, des saveurs, des mariages, des parfums, la menthe marocaine qu'elle trouve incomparable, les oranges, l'essence de rose, qui sont pour elle tout à fait neufs et qu'elle va réussir à transmettre dans ses textes. C'est la petite ouverture exotique, vraiment exotique, de son œuvre.
Pascal Pringard, est-ce que vous vous retrouvez dans cette géographie culinaire? Est-ce qu'il y a des traces de Colette dans le Maine-et-Loire où vous êtes?
Alors, non dans le Maine-et-Loire, malheureusement. Mais ceci dit, on va retrouver des recettes en Bourgogne que l'on va retrouver chez nous, qui telles que par exemple le brochet à la sauce mousseline. On n'est pas tellement loin des Pays de la Loire. Voilà. Mais ce que j'aimerais ajouter aussi concernant Colette, c'est une citation, c'est qu'elle nous dit: si vous n'êtes pas capable d'un peu de sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous mêler de cuisine. Et je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit.
Qu'est-ce que vous en pensez, Guy Ducret?
Ah oui, la magie. La magie, c'est ça qui est tellement important, la sorcellerie et la magie. Je crois qu'il y a, alors même qu'elle divulgue beaucoup de choses, le rappelle toujours chez elle qu'il y a quelque chose de secret. Et ce secret, on n'arrive pas tout à fait à le savoir, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus merveilleux dans la cuisine. C'est la part, et je pense que puisque nous avons un chef au bout du fil, il n'en disconviendrait pas, la part de ce qui est retenu, de ce qu'il ne dira jamais à personne. Et si on peut prendre une minute, on pourrait lire le secret du bœuf en daube de Annie de Peine, qui lui, évidemment, est un secret bien gardé, et c'est très très drôle. À propos de son amie Annie de Peine, elle repense à une autre anecdote d'un extraordinaire autre bœuf à l'ancienne qu'elle a goûté chez une madame Yvon. Et alors elle lui dit, elle voit sa saveur sombre et veloutée, sa consistance mi-fondante. Il brillait d'une sauce caraméline, mordorée, cernée sur ses bords d'une graisse légère, couleur d'or. Je m'écriais: « Madame Yvon, c'est un chef-d'œuvre. Avec quoi faites-vous ça ?»«
Avec du bœuf. »
répond Madame Yvon. Mon Dieu, je le pense bien, mais tout de même, il y a dans cet accommodement un mystère, une magie. On doit pouvoir, à une merveille comme cela, celle-là, donner un nom. Bien sûr, répondit Madame Yvon, c'est du bœuf. Et vous voyez que le secret est extraordinairement bien gardé.
La pomme, la poire, logées dans un nid de cendres chaudes, en sortent ridées, boucanées, mais molles sous leur peau comme un ventre de taupe. Et si bonne femme que se fasse la pomme sur le fourneau de cuisine, elle reste loin de cette confiture enfermée sous sa robe originelle, congestionnée de saveurs et qui n'a exsudé, si vous savez vous y prendre, qu'un seul pleur de miel.
Entre votre lecture, Guy Ducret, et celle de la comédienne Lou Lefebvre, hein, sur les techniques de cuisson, la flamme, la braise, la cendre, hein, en l'occurrence la cendre, on entend en tout cas, ce qui est clair, c'est la gourmandise également du mot de Colette. À vrai dire, c'était quand même une écrivaine. Quand on voit Cocteau écrire, quand on lit Cocteau qui dit « le style de Madame Colette est capiteux », il économise le sel, use de poivre, d'ail, d'herbes diverses et ne craint pas de faire mordre dans ses petits bonnets de gnome qui emportent la bouche. On comprend aussi que c'est tout le plaisir d'écrire sur la nourriture qui emporte Colette.
Alors, non seulement c'est tout le plaisir d'écrire, mais nous ne serions pas là, chère Caroline Brouet, si elle n'avait pas écrit. C'est-à-dire que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cet anniversaire uniquement, non pas parce que Colette a bien mangé, ni du tout parce que Colette a bien cuisiné, ça je pense que non, mais parce qu'elle a, comme personne d'autre, su écrire et analyser l'excellence d'un repas. Et on ne peut pas ne pas penser à cette phrase merveilleuse qu'elle dit tout à la fin de sa vie, « un esprit fatigué continue au fond de moi sa recherche de gourmet, veut un mot meilleur, et meilleur que meilleur. » Et vous voyez, c'est extraordinaire, parce que la quête du mot est analysée en termes de gourmandise. Et je crois que c'est cela qui est tout à fait exceptionnel. C'est cette œuvre. Tout le monde parle aujourd'hui de sa vie qui est tout à fait étonnante et remarquable. Mais ce qui nous rassemble autour, ce qui nous permet de faire une émission sur Colette et la gourmandise,
c'est tout ce qu'elle a écrit dessus.
Voilà, c'est qu'elle a fait exister ce goût dans son œuvre.
Est-ce que vous pensez que la fréquentation du célèbre écrivain culinaire Kurnonsky, qui a été le collaborateur de son premier mari Willy, y est pour quelque chose?
C'est très possible, et nous avons d'ailleurs une entrée dans le dictionnaire Kurnonsky, parce que ça compte sans doute beaucoup pour elle, mais je ne crois pas, comme le rappelait notre interlocuteur tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit un savoir essentiellement livresque. Je crois que c'est un savoir, en effet, hérité d'observations d'enfance et de goûts d'enfance. C'est pour ça qu'il y a des choses si simples qui ressurgissent, la châtaigne, la galette de châtaigne, et des choses toutes simples comme ça.
Pourtant, dans la maison de Claudine, elle se demande « Quel ancêtre me légua, à travers des parents si frugaux, cette sorte de religion du lapin sauté, du gigot à l'ail, de l'œuf mollet au vin rouge ?»
Ah oui, oui, en effet, quelque chose qui devient luxe, luxe. Et alors le luxe peut être venir de très simples choses, mais on ne peut pas ne pas penser à cette extraordinaire recette du lièvre à la royale qui, tenez-vous bien, et je lis Colette, nécessite 60, vous lisez bien 60 gousses d'ail qui ont coopéré à la perfection. Un lièvre à la royale réussi n'a pas le goût d'ail, mais il a nécessité ce luxe de 60 gousses d'ail. Et vous avez raison, il y a ce surgissement du bon produit comme un luxe extraordinaire qui nous est donné.
Pascal Pringarbe.
Oui.
Je crois que vous vouliez intervenir.
Oui, je confirme et effectivement j'ai sous les yeux une alors on parle de produits simples, on peut aussi parler de produits qui sont simples et exceptionnels à la fois. Quand elle parle de la truffe, vous parliez du lièvre à la royale, mais quand elle parle de la truffe à la façon Colette, voilà ce qu'elle dit: ne mangez pas la truffe sans boire, à défaut d'un grand ancêtre bourguignon ou sang généreux, ayez quelques curés fermes et veloutés tout ensemble, et buvez peu s'il vous plaît. On dit dans mon pays natal, pendant un bon repas, on n'a pas soif mais faim de boire. Faim, le mot faim, F-A-I-M. Hein, et je crois effectivement que le produit, c'est l'essence même de la gourmandise de Colette. Quand elle est en Provence avec recette du poisson au cou de pied, c'est quelque chose, c'est toute une littérature autour de cette recette, où elle va expliquer à quel moment on doit taper dans le brasier pour enlever les cendres et avoir le cœur du feu qui va faire de cuire le poisson à la grille. Voilà, elle chante la cuisine aussi à travers sa littérature, et on la retrouve effectivement dans toute la cuisine, on la retrouve, et les produits, on la retrouve dans toute la littérature.
Et c'est ce qui explique, Guy Ducret, que vous ayez écrit dans le dictionnaire, dans votre dictionnaire, c'est peu de dire qu'on mange beaucoup dans l'œuvre de Colette, au point qu'on pourrait classer son œuvre du côté de Proust, d'ailleurs on a consacré une émission aux bonnes choses de Proust, de Flaubert ou de Zola. La gourmandise, elle est aussi source d'inspiration pour son écriture.
Oui, alors ce qui la rapproche de Proust, c'est ce qu'elle appelle l'olfactif de ma mémoire. Ce que le goût fait ressurgir intact de passé, d'immenses pans de passé. En effet, il y a le bonheur du mot et il y a le bonheur de la mémoire. Et je crois qu'on ne peut pas lire ces textes sur la nourriture sans voir qu'ils engagent tous un art de la mémoire extraordinaire. Alors, on peut en prendre un exemple. Nous sommes en 1941-42. Paris est occupé. Il n'y a plus une orange à trouver. Et elle s'adresse à ses lectrices du quotidien et elle leur dit: du temps où nous avions nos oranges. Vous allez me maudire, je vous parle de quelque chose que nous n'avons plus. Et là, elle ouvre, elle ne les a plus, ces oranges. Elle ouvre un surgissement de souvenirs d'oranges, dont on peut lire quelques lignes, peut-être. J'écris ces lignes au mois de février. C'est le moment où, dans les années paisibles, nous avions les Tunisiennes, élites des orangerais, ovales, un peu vultueuses autour du point de suspension, la Tunisienne emplit la bouche d'un suc sans fadeur, d'une acidité adoucie, largement sucrée. Intacte, son écorce exhale un parfum qui rappelle celui de la fleur d'oranger. Mais la Tunisienne n'a qu'un temps, et aussitôt, elle prend, après la Tunisienne, j'avais la Philippeville, qui ne l'égale pas, mais la remplace, mouille moins la bouche, puis suit la Palermitaine, etc. Et donc, il y a là une espèce de... c'est dans un texte qui s'appelle « Flore et Pomone », qui tend presque à l'analyse scientifique. Vous voyez, c'est presque un herbier ou une encyclopédie de plantes où on décrit bien sûr le goût, mais la texture de la peau, où on agit sur le produit et en même temps, surtout, où on fait agir la mémoire. C'est un prodigieux monument de mémoire du temps disparu où nous avions des oranges.
Ce qui veut dire aussi, Guy Ducret, c'est qu'à côté de la géographie culinaire, on a un temps culinaire, on a des périodes de disette, pendant la guerre notamment, et puis on a d'autres périodes d'abondance, et l'écriture de Colette à propos de la nourriture reflète ces différents temps. Mais alors expliquez-nous, Guy Ducret, pourquoi vous avez une entrée végétarisme dans votre dictionnaire Colette, alors que nous avons, depuis le début de cette émission, avec Pascal Pingarbe également, parlé de cuisine campagnarde, rustique, parlait du gras, parlait beaucoup, beaucoup de viande qu'elle adorait.
Eh oui, et vous mettez le doigt sur une des grandes contradictions qu'une de nos contributrices, Meryl Pink, a merveilleusement fait apparaître dans le dictionnaire avec des notices sur le végétarisme de Colette, qui peut paraître extraordinairement paradoxale. N'oublions pas qu'elle s'est fait photographier plusieurs fois sur des peaux de bêtes, des manteaux, des couvertures de petits gris, et pourtant, au fil du temps qui passe, voilà que un drôle de malaise surgit, qui commence à s'exprimer de façon assez nette à la fin des années 20. « L'année prochaine, je serai végétarienne », dit-elle. Mais comment? Pourquoi? Eh bien parce que j'observe ces petits poulets que je vais préparer à midi, qu'on va me préparer à midi, et je vois que ils sont pleins de sang. Et je ne me sens pas bien de les manger. Et puis elle parle d'un petit cube d'agneau dont on se souvient qu'il courait, cet agneau, dans les prés.
Partagé entre son amour pour les bêtes et le plaisir quand même de manger de la viande, je crois que c'est resté une velléité, hein, c'est resté un vœu pieux. Elle n'est pas passée au végétarisme.
Et non.
Et donc vous n'avez pas, Pascal Pringarbe, dans vos recettes à la Colette, de plats végétariens. Vous avez d'ailleurs proposé plutôt une recette de langoustine à la crème que nous avons mis sur le site internet. Il n'y a aucun plat végétarien dans les 80 recettes?
Alors, il n'y a aucun plat végétarien. On a quand même, alors on a ajouté bien évidemment, il y a des œufs, mais on a les artichauts à la barbecue. On a la salade barbouchi de Roosevelt, ou qui est essentiellement à base de légumes. Et je rappellerai quand même que lorsqu'elle est à la Trail Muscat, elle a 2 hectares qu'elle cultive en vigne, en tomates, en figues, en poivrons, en aubergines, en courgettes, et une bonne partie de la cuisine de la Trail Muscat en Provence provient essentiellement de son potager.
Oui, il y a aussi beaucoup de pages sur les fines herbes qu'elle va cueillir au jardin, oui. Parce qu'elle était quand même une très très grande fan de plantes, d'herbes, qui agrémentent d'ailleurs toute sa cuisine. Eh bien, un grand merci à tous les deux d'avoir témoigné de cette gourmandise de Colette et de cette gourmandise de l'œuvre de Colette, où on retrouve beaucoup, beaucoup de recettes, la galette de châtaigne, la galette au beurre fondu, la flognarde, le poisson au coup de pied, le poulet à la cendre et à la glaise, le café au lait de concierge, chose un peu bizarre, la soupe au vin, etc., etc. On peut donc se reporter aux 80 recettes à la Colette, façon Colette de Muriel Lacroix et vous, Pascal Pringarbe, et surtout au dictionnaire de Guy Ducret, Jacques Dupont et de 80 contributeurs paru chez Classique Garnier, où il n'est pas question que de gourmandise et d'alimentation et de plein d'autres choses pour ce 150e anniversaire de Colette. Un grand merci à tous les deux.
Merci à vous.
Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France, avec Siam Boutata à la préparation, François Richer aujourd'hui à la réalisation et notre technicienne du jour, Élise Leu. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.